Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de passer ces moments encore une fois avec vous. Et je voudrais nous partager un chant qui dit que Dieu est puissant, qu'il est grand. Mais ce chant dit aussi qu'il nous tient dans sa main. Il tient chacun de nous dans sa main, là où nous sommes. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant de tout notre cœur et qu'on puisse vraiment se l'approprier à la fin en disant « Tu me tiens dans ta main. Il me tient dans sa main. »
Et
me tient dans sa main, il me tient dans sa main, il me tient dans sa main, il me tient dans sa main.
Merci, mon Seigneur, pour le Dieu que tu es, pour la personne que tu es. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu grand et puissant. Et avant de faire quoi que ce soit, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer, mon Jésus. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci pour les temps que nous pouvons vivre ensemble, pour les temps de partage que nous pouvons vivre ensemble, pour ces temps de communion fraternelle particulier que nous vivons ensemble. Merci, mon Seigneur, pour cette liberté que nous avons. Merci aussi pour la liberté que nous avons de nous encourager au travers de ta parole, au travers de ce temps de partage que nous allons avoir ensemble. Merci de toucher et de parler au cœur. Merci aussi, mon Seigneur, d'être ce Dieu qui nous a promis d'être avec nous tous les jours, à chaque instant dans ce que nous vivons. Et je prie pour mes frères et sœurs, pour mes bien-aimés, dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Nous vivons tous des circonstances différentes. Nous ne vivons pas tous forcément la même chose, mais je prie, mon Seigneur, que dans ce que vivent mes frères et sœurs, tu viennes les secourir, tu viennes les bénir, tu viens à la rencontre de leurs besoins maintenant, mon Seigneur. Je te prie maintenant, mon Dieu, de bien vouloir bénir ce message, de bien vouloir m'aider dans le partage de ce message. Aide-moi dans les mots, dans ce que tu as déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Seigneur, mon Père, parle à nos cœurs au travers de ce message, parle à nos vies. Sois à l'œuvre par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Bonsoir à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver et de pouvoir partager la parole avec vous. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est tellement particulier ce que nous vivons et nous avons le sentiment que nous ne vivons pas tous la même chose. Autant il y en a certains qui vivent un temps de confinement en famille et il y a une certaine bénédiction à vivre ce qu'ils vivent, autant de l'autre côté il y a des tragédies autour de nous, il y a des choses terribles qui sont en train de se passer. Peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes dans votre lit ou peut-être vous avez perdu des proches. Je prie que Dieu vienne vous relever, je prie que Dieu vienne vous restaurer, je prie pour que vous viviez peut-être dans ce que vous vivez, particulièrement une consolation. Nous avons un Dieu qui est présenté comme le Dieu de toute consolation. Et je prie que dans ce que vous viviez, vous puissiez voir la main de Dieu agissante aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais peut-être, avant de commencer à ouvrir la parole, vous partager peut-être une réflexion que vous peut-être partagez avec moi. Le sentiment que depuis le début de ce que nous vivons, nos vies sont en pause. Oui, en pause. Peut-être comme moi, vous aviez le sentiment d'aller à 130 à l'heure, vous fonciez dans les projets, vous étiez sur l'autoroute et tout était dégagé et tout allait bien avec la conviction que tous les projets allaient se terminer ou qu'on allait arriver à mener à bien tout ce que nous avions sur notre cœur, quand tout à coup, brutalement, soudainement, quelqu'un appuie sur la pédale de frein et là on se retrouve bloqué. Bloqué sur l'autoroute et on n'avance plus. J'ai le sentiment, et peut-être c'est le vôtre, que notre humanité est bloquée, que notre humanité est en pause, que nous vivons quelque chose d'historique, mondial, que l'humanité n'a jamais vécu jusqu'à présent. C'est d'autant plus remarquable que, en effet, le monde est en pause, mais tout cela est arrivé d'une façon si soudaine, si brutale. Quand je pense à ce mot soudain, je ne peux m'empêcher un texte que nous connaissons bien. Permettez-moi de le prendre avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Voilà ce qu'il nous dit. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. » Quand je réfléchis à comment notre gouvernement a géré la crise, et je ne les blâme pas, et je ne suis pas en train de les critiquer loin de là, mais la crise est si soudaine, si brutale, si inattendue, qu'on se rend compte que nous n'étions pas prêts à vivre ce que nous vivons. Et ça entraîne tellement d'incertitudes, tellement de remise en question dans ce que nous vivons. Dernièrement, j'ai entendu le Premier ministre qui parlait et dans ce qu'il partageait, il disait probablement, il l'a dit tellement de fois qu'on se rend compte qu'il ne maîtrise plus les choses. Et je ne suis pas en train de dire que ce texte fait référence à ce que nous vivons. Quand Paul parle d'une crise soudaine, de cette crise soudaine qui mettra un peu l'humanité à genoux, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous vivons. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, c'est que ce que nous vivons donne crédit à ce que Paul annonce. Donne crédit à ce que Paul annonce. Si nous pensions que notre humanité était capable de résoudre tous les problèmes, était capable de supporter toutes les crises, on se rend bien compte que cet ennemi invisible tellement petit qu'on ne peut pas le voir a mis à genoux notre économie, a mis à genoux l'humanité, a mis l'humanité en pause. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire que ce que nous vivons, c'est ce que Paul annonce. Mais on se rend compte de la probabilité que cette chose puisse arriver. Quand Paul l'annonce, quand Paul dit qu'une ruine soudaine va s'abattre sur la terre, on se rend compte que Paul annonce quelque chose de fort probable compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, cette crise, comme beaucoup déjà s'emploient à parler, c'est ce mot qu'on retrouve de plus en plus, nous touche de différentes façons. Cette crise amène des tragédies humaines, et c'est peut-être ce que vous vivez aujourd'hui dans votre corps, dans votre santé. Et c'est votre santé qui est atteinte aujourd'hui. Mais quand je parle de tragédie humaine, c'est peut-être votre entourage, peut-être des proches à vous qui sont partis. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je prie que Dieu vienne à votre rencontre. Je prie que Dieu vienne vous secourir là où vous êtes. Je prie que vous voyez ce Dieu de miracle agir dans votre corps. Je prie que ce Dieu de toute consolation vienne consoler votre cœur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu prend soin de notre cœur comme il veut prendre soin du vôtre ce soir. Cette crise a d'autres portées. Comme Didier le disait dimanche dernier, il parlait de cette crise financière. Ce que nous vivons est une tragédie financière, est une tragédie économique. Beaucoup d'entre nous ont dû arrêter leur travail, beaucoup d'entre nous ont arrêté de fonctionner parce que le confinement est là et finalement ça génère tout un tas de problèmes économiques, de fonctionnement. Est-ce que je vais avoir mon salaire? Est-ce que je vais pouvoir faire tourner mon entreprise? Et Didier l'a tellement décrit avec une telle justesse dimanche dernier. Et je veux croire de tout mon cœur que Dieu peut se révéler à vous comme celui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et je veux croire que dans ce que vous vivez, Dieu prendra soin de vous. Dieu vous montrera sa grâce, vous montrera sa puissance, vous montrera combien il est capable de venir à la rencontre de vos besoins. Mais cette tragédie va beaucoup plus loin et j'ai aussi ce sentiment-là de dire qu'elle bouscule nos projets. Peut-être nous réfléchissions déjà à partir en vacances. Certains étaient dans la réflexion de partir en vacances. Les billets étaient pris, tout était prêt, les bagages étaient presque prêts. Et puis là, le coronavirus est mis en échec tous nos projets. Je pense à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de jeunes. Je suis beaucoup de couples qui sont sur le point de se marier. Et je reçois leurs mails d'annulation ou de report de leur mariage. J'imagine combien ça doit être dur et frustrant pour eux parce que on prépare un mariage longtemps en avance, comprenez? C'est des mois et des mois de préparation dans la joie et puis on est pressé de se marier et puis alors que on avance et au plus on s'approche de la date et puis on se rend compte que la situation devient intenable et ils finissent par annuler, voire reporter leur mariage. Quelle frustration! Et vraiment, ce soir, je vais en profiter pour vous dire que je suis tout cœur avec vous. Je prie pour vous. Je prie que Dieu vous aide dans cette situation, dans ce que vous vivez, dans cette forme de tragédie que vous vivez. À notre niveau, au niveau de l'Église, nous nous faisions une joie de préparer un beau spectacle pour Pâques. On a travaillé dessus, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a réfléchi à ce projet. Et alors que nous étions sur le point de commencer la communication de ce rendez-vous de Pâques, eh bien, nous avons pris la décision d'annuler ou de reporter ce rendez-vous. C'est extrêmement difficile et frustrant d'annuler un projet comme celui-ci, parce que d'une part, il y a des efforts, il y a tout un travail de réflexion derrière, et puis on est dans la réflexion de bénir et de se faire du bien, mais c'est d'autant plus dur que c'est Pâques. Pâques! Je pense que il y a très peu de fêtes auxquelles nous sommes attachés, mais Pâques! Plus encore que Noël d'ailleurs, parce que Sans la mort de Christ, la venue de Jésus n'a pas de sens. Sans la croix, sans le tout accompli de Dieu à la croix, sans la mort de Jésus, la venue de Jésus n'a plus de sens, n'a pas de sens. Pâques, c'est d'autant plus dur que Pâques, c'est la date, c'est le temps de commémoration où nous aimons, Église, nous retrouver, partager un temps ensemble, nous réjouir de ce que Jésus a fait, nous rappeler ce que Jésus a fait sur la croix, nous rappeler que Jésus nous a donné la vie par sa mort. Pâques, c'est central pour nous. Pâques, c'est tellement important pour chacun d'entre nous. Et là, on se retrouve dans cette situation, dans cette frustration de dire, mais cette année, Pâques sera pas comme les autres années. Pâques sera une année confinée. Pâques sera une année, sans les frères et sœurs. Alors, on pourrait trouver cette situation très singulière. Même se dire, mais c'est quelque chose de très particulier. Sauf que, ce que nous vivons doit faire écho à ce qui s'est passé bien avant que Jésus arrive. Et pour être très honnête, en se plongeant dans la parole, en y réfléchissant bien, ce que nous vivons fait écho à ce qu'Israël a vécu des milliers d'années avant que Jésus arrive. En effet, à l'époque, Israël est prisonnier de l'Égypte. Israël est l'esclave de l'Égypte. Et ce qu'Israël va vivre dans cette période-là, dans ce temps de délivrance, après 9 plaies où Dieu a attaqué l'Égypte, Dieu entame une nouvelle étape, la 10e plaie, l'ultime plaie qui va libérer définitivement son peuple de la main des Égyptiens. Cette ultime plaie, nous la connaissons très bien. Elle va passer par un fléau qui va s'abattre sur tous les premiers-nés de l'Égypte. Et ce fléau va tuer bon nombre de jeunes et de premiers-nés dans la population égyptienne. Et ce fléau va se balader dans les rues de l'Égypte, comme ce fléau que nous vivons aujourd'hui se balade dans les rues tout autour de nous. Nous sommes confinés parce que ce virus est partout et qu'il peut nous atteindre. À la même époque, Israël vivait sensiblement quelque chose de semblable. Avec la mort en Égypte, et avec une notion particulière où Israël, alors que la mort est tout autour, les familles d'Israël vont se retrouver confinées dans leur maison. Permettez-moi de vous lire simplement ce passage étonnant. Exode chapitre 12, à compter du verset 22. Voilà ce qui nous est dit. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ils étaient confinés. La mort était là. Et eux, ils étaient dans les maisons et ils ne devaient pas en sortir. Alors si on pense que le fait de vivre une Pâque confinée est quelque chose de singulier, Dieu nous rappelle au travers de ce passage que la première Pâque était une Pâque confinée, était une Pâque où les familles étaient à l'intérieur des maisons confinées en attendant que la mort passe au-dessus d'eux. Alors quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pouvons saisir de leur confinement? Qu'est-ce que nous devons prendre de leur confinement? Et j'ai retenu 3 choses importantes de ce texte, d'Exode chapitre 12. 3 choses qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé, 3 choses essentielles. Et je vais employer le mot essentiel parce que dans ce que nous vivons, c'est comme si Dieu nous ramenait à des essentiels. Et permettez-moi simplement, au travers de ce temps de partage, de nous rappeler 3 choses essentielles dans ce que nous vont vivre, dans ce qu'Israël a vécu dans cette période de confinement que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Amen. La première chose essentielle qui transcende tout le chapitre d'Exode, chapitre 12, c'est l'agneau. L'agneau est présent à tous les niveaux, 3 fois dans Exode, chapitre 12. Le premier passage qui fait référence, c'est Exode, chapitre 12, verset 6, ou tout le début d'ailleurs, il parle de cet agneau, mais permettez-moi de le prendre à partir du verset 5. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. L'autre référence, c'est dans le même chapitre, Vous trouverez la même référence au chapitre 13. Le sang vous servira, au verset 13, pardon, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et il y a une troisième référence dans ce même passage à l'agneau, au verset 21, où il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Il y a quelque chose de vraiment particulier qui transcende ce texte. En effet, c'est la présence de l'agneau. Autant pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, l'agneau est essentiel. Autant pour nous, Jésus et le symbole que Jésus représente aujourd'hui dans nos vies est essentiel. En effet, dans ce passage, il est fait question de l'agneau immolé, il est fait question du sang sur les linteaux. De la même façon pour nous, cet essentiel doit être présent dans nos cœurs et dans nos vies. Notre agneau, Jésus l'agneau immolé, doit être, en cette période particulière de confinement, doit être au centre. Je dis ça parce que nous vivons et nous rentrons dans une période de grande incertitude, dans une période où nous ne maîtrisons pas tout, où nos programmes, nos projets, tout est rebrassé, tout est... Qui peut dire de ce que sera fait demain? Et face à toute l'incertitude qui est en face de nous, bien souvent en économie, on dit que l'argent ou les investisseurs vont se réfugier dans des valeurs refuges. Moi, j'aimerais vous dire, dans cette période de confinement et dans cette période d'incertitude dans laquelle nous allons, il est d'autant plus important que l'essentiel soit d'autant plus présent dans nos cœurs et dans nos vies. Dans ce passage-là, il est fait référence de ce sang qui est aspergé, qui est positionné sur les linteaux et sur les poteaux des portes. J'aimerais te poser une question, mon frère, ma sœur. Où en es-tu de ton salut? Où en es-tu de ce qui est essentiel? Où en es-tu de la croix? Par moments, les temps comme ça sont là pour nous rappeler ce qui est essentiel et ce qui est important. Et aujourd'hui, ce qui est important plus que jamais, c'est quelle est ton assurance? Où en es-tu de ton assurance? Et je pense que les moments que nous vivons sont là pour nous interpeller quant à cet essentiel, notre salut. Quant à la présence du sang de l'agneau autour de nos vies, quant à la présence de Jésus, quant à la présence de la croix dans notre cœur. Et mon frère, ma sœur, tu as pu peut-être passer des temps difficiles où tu es en train de revenir à Christ. Je te prie vraiment d'entendre ce cri d'appel de Dieu qui t'invite à te repositionner, à refaire la paix avec ton Dieu, à faire la paix avec ton Sauveur, avec celui qui veut te donner une assurance, une valeur refuge dans le ciel. Alors que tout autour, l'incertitude est en train de gagner notre terre. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et peut-être que, comme je l'ai dit en préambule, nous vivons cette fameuse crise, peut-être, cette crise soudaine. Si c'est le cas, la seule valeur refuge dans laquelle tu peux investir aujourd'hui, maintenant, c'est ton assurance d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. C'est la présence de la croix dans ta vie. C'est la présence et l'assurance que le sang de Jésus te recouvre, te donne ce vêtement de justice qui fait que quand Jésus va te voir, quand Dieu va passer, il passera au-dessus. Alors, cette assurance ne concerne pas notre première mort, comprenez, parce qu'on pourrait vite faire l'amalgame et dire, parce que je suis chrétien, je ne vais pas être atteint par le coronavirus. Je trouve que, peut-être si c'est l'assurance que tu as reçue de la part de Dieu, tant mieux. Mais ce n'est pas de cette assurance dont je veux parler. C'est de l'assurance quant à la seconde mort. C'est l'assurance quant à ton éternité. Alors oui, Dieu peut te préserver du coronavirus, mais c'est pas l'idée. Quand je te dis de te réfugier dans les valeurs certaines que sont celles de ton salut, de la croix et du sang de Jésus, c'est d'avoir l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu es en paix avec ton Dieu dès maintenant. Je crois que ce temps de pause doit être mis à profit pour régler les choses avec Dieu, pour se tenir devant Dieu et pour faire en sorte que dans le ciel, et dans ton cœur, tu es en paix avec lui quant à demain. Que tu es en paix avec lui quant à ton avenir. Et par rapport à toutes les incertitudes qui sont les nôtres, quant à ce que sera demain, au travers de la Pâque, et la Pâque juive en particulier, elle nous rappelle l'essentiel qu'est l'agneau. Il est central dans la Pâque. Et j'aimerais te rappeler que dans ta vie, aujourd'hui, dans cette période de confinement, Dieu veut te rappeler combien l'agneau, combien son sacrifice, combien le sang de Jésus est important aujourd'hui dans ta vie. Il est le garant de ton assurance céleste. Et c'est sans doute peut-être le moment propice pour faire la paix avec Dieu, pour t'assurer de ce qui est et de ce qui a besoin d'être écrit dans le marbre ce soir, dans ta vie, dans ton cœur. T'as peut-être besoin de faire un retour vers Dieu, fais-le. T'as besoin de revenir vers Dieu, fais-le. Ne perds pas de temps. T'as besoin de retrouver une intimité avec Dieu, fais-le. C'est le moment. Et c'est l'essentiel dans ce passage-là. La deuxième chose essentielle que je vois dans ce passage-là, c'est que la fête de la Pâque n'est pas une fête quelconque dans l'histoire du peuple d'Israël. Et très clairement, c'est l'une des toutes premières fêtes famille. Et permettez-moi de relire ce passage au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles. » Alors, il y a le peuple de Dieu. Et puis, dans ce contexte-là, Moïse fait un espèce de focus sur les familles. Il dit « Maintenant, chacun doit s'occuper de sa famille. Maintenant, vous devez prendre l'agneau, vous devez le préparer au sein de votre famille, vous devez vous en nourrir en famille, vous devez vivre ce temps en famille. » Et ce temps de confinement que nous vivons, clairement, dans ce que nous vivons, nous, en tant que famille, on vit H24, nos enfants, nous vivons H24, des temps familiaux, et c'est tellement propice à vivre des choses, à se nourrir ensemble de la parole de Dieu. Peut-être vous vivez ça, vous qui avez des enfants, mais c'est tellement difficile d'avoir des temps en famille quotidien, d'avoir des temps en famille en fonction de l'heure à laquelle chacun se réveille. Il y en a qui partent au travail, il y a les enfants qui doivent aller à l'école. La vie fait que nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse, un rythme qui va tellement vite, qui fait que on peut être à un moment donné perdu. Alors on peut passer du temps en famille, et j'apprécie le temps que je vis aujourd'hui. Parce que je prends du temps avec les miens. Je prends du temps dans la lecture de la parole. Je prends du temps, on prie ensemble, on présente la journée ensemble, très souvent, très fréquemment, plus que jamais d'ailleurs. Et ce sont des temps bénis. Et je crois que c'est un essentiel que Dieu vous nous rappelle dans ce que nous vivons aujourd'hui, nos familles. Nos familles. Et Dieu nous a placés par moments comme un phare dans nos familles. C'est un temps pour toi d'aller chercher l'agneau et de nourrir ta famille. C'est un temps peut-être où Dieu te dit, c'est le moment peut-être d'aller interpeller les tiens qui n'ont jamais été prêts pour entendre parler de Jésus. C'est peut-être un temps particulier que tu peux avoir. Alors c'est vrai que nous sommes peut-être confinés, c'est peut-être ton cas, tu es confiné, tu es seul à la maison. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de communication qui nous permet de vivre des temps privilégiés, des temps de cœur à cœur avec les nôtres. Et j'aimerais t'encourager pendant cette période de confinement de regarder à cet essentiel qui est ta famille, à ne pas la négliger, à ne pas la mettre de côté, à faire en sorte que dans tes priorités, aujourd'hui, la famille soit présente. Nous vivons quelque chose d'assez exceptionnel au sein de notre famille et c'est vraiment bon et ça fait vraiment du bien. Mais je voudrais t'encourager en te disant que c'est peut-être le moment le plus propice pour leur parler, où ils ont du temps, où toi tu as du temps et tu peux avec l'aide du Saint-Esprit, leur parler comme tu leur auras jamais parlé. Et je voudrais t'encourager, parce que ce temps que nous vivons, cette Pâque que nous vivons, est le moment peut-être le plus propice pour les inviter à rentrer dans la maison du Père. Amen. La dernière chose essentielle que j'ai découverte dans ce passage, je voudrais la partager simplement avec vous. Ce passage de la Pâque est un moment particulier pour Israël. Et permettez-moi de le remettre dans son contexte. Israël, le lendemain matin, devait partir. Et ce qui est très intéressant dans ce passage-là, c'est que c'est vrai, c'est la Pâque, mais la Pâque avait un objectif. Alors oui, pour nous, c'est tout un symbole. C'est le symbole de Jésus immolé, c'est le symbole de notre Sauveur qui meurt pour nous. Mais pour Israël, ce temps-là, il y avait une valeur secondaire très importante, c'était qu'il devait prendre des forces. Parce que le lendemain, il devait partir. Alors, je voudrais simplement vous lire le passage qui correspond à ça. Dans Exode chapitre 12, verset 11, voilà ce qu'il nous est dit. « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. L'idée de ce passage, c'est de prendre des forces. Israël vit la Pâque, il se nourrit, il mange parce que le lendemain matin, ils vont devoir partir. Et ils vont devoir marcher et ils vont commencer leur pèlerinage. Nous connaissons la suite de ce passage-là. Mais l'idée pour moi est de vous partager un essentiel. Alors que nous vivons ce que nous vivons, j'ai le sentiment que Dieu nous appelle à nous préparer. J'ai le sentiment que ce temps n'est pas juste un temps gratuit. Lorsque nous sommes confinés à la maison, et vous pouvez en convenir, on n'est pas dans les transports et on a plus de temps pour certaines choses. Alors certains vont faire du bricolage, c'est un peu mon cas. Certains vont prendre du temps pour être plus en famille. Certains vont prendre du temps pour plus contacter les uns les autres. Tout ça est louable et que Dieu vous bénisse là-dedans. Mais j'ai le sentiment aussi que Dieu nous dit, prends du temps avec moi, tu vas en avoir besoin. Prends des forces, nourris-toi. Et ce passage-là est à corréler en effet avec ce que j'ai partagé préalablement. Alors qu'on a lu, en effet, que la ruine soudaine devait s'abattre, voilà ce qu'il nous est dit au verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillez et soyez sombres. Quand je pense à ce texte, à cette Pâque, il y a l'idée qu'Israël va se nourrir du pain sans levain de l'agneau, va prendre des forces parce que le lendemain, il devait marcher. Et il devait marcher beaucoup. C'était le début de leur pèlerinage et Dieu avait anticipé ça. Et pour moi, ce temps de Pâque qui commence pour Israël demain, pour les Juifs demain c'est le début de la Pâque, est synonyme pour nous en tant qu'enfants de Dieu, comme un temps de mise à part, où nous nous préparons. Je ne sais pas à quoi Dieu nous prépare. Je ne sais pas vers quoi nous allons. Je ne sais pas ce que nous sommes appelés à vivre. Je ne sais pas sur quoi cette crise va déboucher. Mais quelque part, au fond de moi, j'ai le sentiment que Dieu nous appelle à reculer, peut-être se mettre en pause pour mieux sauter, si je puis dire. Je ne sais pas ce que sera fait demain et ce qui nous attend, mais une chose est certaine, ce que nous vivons, les temps que tu vis, ne sont pas gratuits, mon frère, ma sœur. Ne sont pas des temps à gaspiller ou à perdre, à se dire, eh bien, on en pose et on attend. La Pâque, ce temps de confinement, avait pour but qu'Israël prenne des forces, se prépare à marcher. Et le texte est très clair, munissez-vous d'un bâton, saignez vos reins, mettez vos souliers aux pieds et votre bâton, et mangez à la hâte parce que c'est la Pâque, parce que vous allez partir. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre dans l'idée de partir. Est-ce que c'est parce que Dieu est en train de préparer son église à son retour? Sans doute, de toute façon, nous devons nous préparer. Mais je peux croire que Dieu est en train de susciter ce temps de pause spirituelle pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous puissions tendre l'oreille à ce qu'il a à nous dire, pour que nous puissions nous préparer et être ces instruments que Dieu veut que nous soyons. Mon frère, ma sœur, dans ces trois essentiels, je voudrais te rappeler qu'Israël les a vécus. Ces essentiels nous rappellent la place de Christ dans nos vies, la place de son sacrifice dans nos vies, la place de notre salut, la place du sacrifice de l'agneau et de la vie qu'il veut mettre en nous. Le deuxième essentiel nous rappelle l'importance de notre famille. Par moments, ce temps de confinement est un temps que nous devons mettre à profit pour nos bien-aimés, pour nos parents, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. C'est un temps que nous devons mettre à profit pour peut-être être cette lumière dans leurs ténèbres, les faire rentrer dans notre maison, les faire rentrer dans la maison du salut. Le troisième essentiel que je voudrais te rappeler, c'est que la Pâque juive avait un but, un autre but, un but un peu plus subtil, c'est qu'il devait prendre des forces. Il devait manger l'agneau, manger le pain, manger tout ça. C'est quelque chose de commémoratif, certes, mais l'idée qu'il y avait à ce moment-là pour Israël, c'est qu'il devait se préparer à un départ. Il devait prendre des forces. J'aimerais t'encourager, mon frère et ma sœur, à ne pas gaspiller ce temps, à te nourrir, à prendre des forces spirituelles. Parce que, en face des incertitudes qui sont devant nous, Dieu nous appelle, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, de ne point dormir, de ne pas être comme ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous ne devons pas être surpris de ce que nous vivons, mais nous devons veiller. Comme le dit la parole, nous devons veiller et nous préparer, nous nourrir, être prêts, peut-être à partir avec notre Dieu, mais peut-être aussi à être des instruments dans une période de trouble où le monde va avoir besoin plus que jamais d'entendre parler de Jésus. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager au travers de ce message. Je voudrais t'encourager dans ce que tu vis. Notre Dieu veut pourvoir à nos besoins, mais Dieu aussi nous invite à avoir une autre vision de ce que nous vivons. Nous pouvons nous lamenter de ne pas vivre la Pâque, ou nous pouvons retenir les leçons du confinement de la première Pâque. Ce confinement a amené Israël sur des essentiels. L'agneau, la famille et le fait de se préparer. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et à bientôt. Merci mon Seigneur pour la joie d'avoir partagé ta parole avec mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Merci mon Seigneur pour ces trois essentiels que tu nous rappelles. Merci mon Seigneur pour ces trois choses importantes auxquelles tu veux nous interpeller encore ce soir. Je te prie de mettre en œuvre dans nos vies ces essentiels. Je te prie de nous aider pendant cette période à nous recentrer sur le message de la croix dans nos vies. Et s'il y a besoin pour certains de revenir pleinement au message de la croix, de revenir pleinement au message du salut, de revenir pleinement au pardon des péchés, je te prie vraiment de commencer et d'entreprendre ce travail dans des cœurs qui m'entendent en ce moment. Si certains d'entre nous ont besoin de revenir à toi, qu'ils reviennent pleinement à toi et qu'ils saisissent l'agneau, qu'ils saisissent Jésus immolé sur la croix pour le pardon de leurs péchés. Mon Seigneur, je te prie pour que ce temps soit mis à profit pour nos familles. Et Seigneur, nous voulons profiter de ce temps pour investir dans les nôtres, ceux qui sont attachés à nous, nos parents, nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs. Je te prie vraiment, mon Dieu, parce que cette fête de la Pâque met le focus sur la famille, met le focus sur l'importance des nôtres, ceux qui sont les plus proches de nous. Seigneur, on veut que ce temps soit mis à profit, on veut nourrir nos bien-aimés. On veut être cet instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour. Seigneur, comme tu as dit aux anciens, comme Moïse a dit aux anciens, prenez du bétail. On veut prendre cette nourriture et on veut la distribuer aux nôtres. On veut que tu favorises des temps d'échange avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos enfants. Nous prions, Seigneur, que ce temps soit un temps de semence, soit un temps où nous allons déposer dans le cœur de ceux que nous aimons une pensée, la pensée de l'éternité. Seigneur, le troisième essentiel que je veux relever, mon Dieu, c'est le fait de se préparer. Seigneur, c'est pas un temps gratuit que nous vivons. C'est pas un temps où nous devons subir les choses, mais c'est un temps où tu nous dis, comme Israël, ils étaient prêts à partir. Seigneur, autant nous nous préparons à partir parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure qui va nous rapprocher de toi, mais aussi se préparer à la suite, se préparer à ce que peut-être demain, Seigneur, on veut prendre des forces physiques pour la marche qui nous attend. On veut pas être surpris de ce qui va se passer. On veut pas être pris au dépourvu de ce qui va se passer, mais on veut vraiment prendre la mesure que ce temps de Pâques est un temps où tu prépares nos cœurs, où tu veux parler à nos cœurs, où tu veux nous dire des choses, tu veux peut-être nous révéler des choses, où tu veux nous utiliser en vue d'une bénédiction, en vue d'être des instruments, en vue d'être cette lumière dans les ténèbres. Je te prie de nous bénir chacun dans ce que nous vivons, de nous bénir dans cette période de confinement, de bénir ceux qui sont peut-être fatigués, alités. Relève-les. Merci mon Seigneur parce que tu es présent avec nous tous les jours dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et Amen.